Europe 1.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Nous voyageons ensemble tous les après-midi sur Europe 1 entre 16h et 18h et nous sommes maintenant en Italie. Et voilà, on est tout de suite de bonne humeur. Et on mange bien en Italie, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on mange bien dans ce pays ? Ils sont presque un peu vexants pour nous, Français, parce qu'ils sont vraiment en compète avec nous. Hein. Ils sont très forts.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont forts. Et en préparant la chronique, c'était cornélien de faire des choix, tellement il y a des bonnes choses partout. Alors, on a déjà beaucoup parlé de Venise, mais je vais quand même en parler aussi un petit peu côté saveur, parce que Venise a sa cuisine, beaucoup de poissons, de fruits de mer. Il y a le risotto de Gao, qui est un risotto de poisson. Il y a la brandade vénitienne. Et alors, surtout, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça ? Il y a un vin dans la lagune de Venise, Orto di Venezia, qui est un vin qui n'est pas si connu que ça, c'est le vin de Venise, de la lagune. Il a une histoire étonnante, mais bien souvent, quand on parle de ce vin, on en oublie de parler du vin parce qu'on raconte toujours l'histoire avant. Alors moi, d'abord, je voudrais dire que c'est un vin blanc de garde, ce qui n'est pas la culture italienne. Il a vraiment une belle fraîcheur. Je vais vous l'apporter pour que vous puissiez le goûter.
Oui, d'ailleurs.
On est en train de découvrir.
Il a une belle fraîcheur en bouche. Il a beaucoup de minéralité et c'est pour ça que je l'apprécie.
Il est très bien pour l'été.
Voilà, c'est ça. Alors, ça tombe bien, c'est maintenant. Il y a quelques notes salines, ce qui est rare et en fait, qui s'accordent bien donc, avec aussi les moëqués, hein, ces crabes mûs de la lagune. Et voilà.
Les crabes mous, les crabes sans coquilles.
Ouais, exactement.
Ah, en carapace, je veux dire.
En fait, on les pêche avant. On les pêche avant la mue, on les met dans des boîtes en bois et puis on attend qu'ils muent et là on les retire un par un. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont si chers, c'est 80 euros le kilo parce que comme c'est un travail manuel, il faut les retirer avant que les gros crabes ne les mangent.
Ouais. Et donc c'est au moment où le crabe mue, il sort de sa carapace et on le chope là, à ce moment-là et on le mange là.
Et en fait on les fait frire et tout. Alors Orto di Venezia, c'est parfait avec ce genre de cuisine. Et voilà. Et en fait, c'est un vin qui, je disais, qui a une histoire incroyable. Alors, je vous la raconte. En fait, le vignoble se trouve au nord de la lagune. Donc, c'est sur l'île de San Terrasmo. Alors, la République de Venise était intelligente parce que chaque île avait sa fonction. Mm-hmm. Il y avait Murano pour le verre, Burano pour la pêche et la dentelle. Il y a une île cimetière qui existe toujours, San Michele. Et il y avait San Terrasmo qui était en fait l'île qui nourrissait Venise. Encore aujourd'hui, c'est là une île maraîchère où on cultive énormément de légumes. Ils sont très réputés dans tout Venise, mais aussi en Italie. Les fameux castraure, par exemple, c'est les petits artichauts qu'on récolte sur cette île. Uniquement sur cette île. Et alors, quand le propriétaire de ce vin, Orto di Venezia, qui est d'ailleurs un Français, Michel Toulouse, lorsqu'il a acheté sa maison sur l'île, les paysans sont venus le voir et lui ont dit « Mais t'as les meilleures terres, il faut faire quelque chose ». Alors, il a retrouvé d'anciens documents qui parlaient du vignoble du noble homme. En fait, au XVIIe siècle, il y avait des vignes sur cette île, avant le phylloxéra. Et donc, en 2006, il a décidé de refaire vivre ce vin. Il a travaillé avec Claude et Lydia Bourguignon, qui sont, je ne sais pas si pour ceux qui les connaissent, les grands spécialistes des sols, avec Alain Graillot, aussi grand vigneron à Crozes-Hermitage. Et ensemble, ils ont essayé de restituer les caractéristiques de ce terroir unique au monde. Alors, on écoute Michel Toulouse qui nous en parle.
Le terroir est très complexe. Il y a du calcaire, il y a de l'argile, et il y a surtout les sédiments apportés par les rivières dans la lagune, les sédiments des Dolomites. On a travaillé avec Claude et Lydia Bourguignon pour la préparation du terrain. On a planté front de pied, c'est-à-dire pas sur porte-greffe, comme on le faisait avant le phylloxéra. Et on le fait le plus naturellement possible. Et surtout, on n'a pas d'œnologue. Parce qu'on pense qu'un œnologue, pour justifier sa présence, vous rajoute des choses dans le vin. Donc on a cherché à faire un vin le plus proche possible du jus de raisin fermenté.
Donc voilà, un jus de raisin fermenté, mais qui a une belle complexité.
Oui, c'est bien fermenté, c'est finement fermenté, il n'est pas mauvais.
J'ajoute que c'est vraiment un vin ultra naturel, il n'y a rien, il n'y a pas de rajout.
Et alors, évidemment... vous êtes en train d'expliquer que pour avoir un bon vin en Italie, il faut un Français.
Ah non.
C'est ça, c'est votre démonstration.
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que c'est vrai qu'il y a un très très grand, des grands vignobles en Italie. Moi j'aime bien les vignobles du Nord, mais d'ailleurs ce vin n'existe, il y a que des vins blancs. Orto di Venezia, c'est uniquement un vin blanc. Alors vous pouvez aller visiter ce domaine sur l'île de San Terrasmo. C'est un des plus beaux endroits que je connaisse. Moi j'ai dégusté Orto di Venezia en regardant la lagune, c'est un instant magique. Et puis si vous n'y allez pas, vous pouvez commander ce vin, ce que j'ai fait. Et donc voilà, vous le dégustez ici. principe et peut-être ça vous fait décoller, enfin partir pour la lagune en buvant.
Très bien. Avec modération, tout ça, évidemment.
Avec modération, bien sûr.
Et alors, après le vin, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Alors, je voudrais vous parler du vinaigre. Donc là, c'est vrai que c'est
vinaigre.
Oui, oui. Alors, c'est un peu. On pourrait penser le grand écart, parce que vous savez, le vinaigre, c'est le vin qui a mal tourné, hein, le vin aigre. Mais là, je vais vous parler.
Ah, j'avais jamais pensé.
Ah, bah oui, c'est ça.
Le vinaigre, c'est le vin aigre.
Ah, oui. Ouais.
Mais alors, écoutez, ben, voilà, il a fallu que j'attende ce jour pour comprendre ce mot.
Mais sauf que le vinaigre dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment un petit bijou, un joyau. C'est le vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Donc là, on est en Émilie-Romagne. Alors, on connaît tous le vinaigre balsamique, hein, et c'est pas forcément bon. Mais là, je vais vous parler du vinaigre traditionnel. Je dis pas
le
vrai.
Le balsamique, oui, c'est vrai que c'est le truc qu'on trouve en supermarché.
Bah voilà, parce que alors ça, c'est
souvent décevant.
Oui, mais parce que ce n'est pas le vinaigre traditionnel. Il y a des gens qui disent le vrai et le faux. Moi, je ne rentre pas dans ce débat et je suis pas d'accord avec ça parce que l'autre, il est vrai aussi, mais il n'est pas fait de façon traditionnelle. Et c'est toute cette façon de le faire qui va changer le vinaigre. Alors, ce vinaigre, il est élevé traditionnel, il est élevé dans des fûts pendant 12 ans et minimum et jusqu'à 25 ans. Ça, c'est, alors 12 ans, c'est pour avoir le droit à l'appellation traditionnelle. Et 25 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un quart de siècle.
Un quart, il doit coûter une fortune.
Ah oui, alors ça, oui, il vaut très très cher. Et donc voilà, 12 à 25 ans pour fabriquer ce vinaigre.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces années ?
Ben alors en fait, il est transvasé de fût en fût. Alors on commence par des grands fûts qui font 60 litres et petit à petit, on le transvase dans des fûts plus petits, 50 litres, après l'année d'après 40 litres et on va comme ça jusqu'à 15 litres. Et chaque fût est fait d'un bois différent. Donc par exemple,
mais pourquoi ça réduit ? Je ne comprends pas.
Ben parce que ça s'évapore.
Hein. Ah, ok.
En fait, justement, il y a des bois qui sont moins durs et donc qui permettent l'évaporation, des bois plus durs qui vont permettre la concentration. Donc chaque bois a une fonction et puis va donner un goût. Il y a du châtaignier, du frêne, du cerisier, du mûrier, du genévrier. Et donc voilà, petit à petit, vous imaginez 25 ans. Donc on part avec 60 litres, on se retrouve avec 15 litres et évidemment, bah, on se retrouve avec un vinaigre qui est très épais, qui est très sirupeux. Ouais. Et toutes les essences de bois lui ont apporté sa complexité aromatique. Et ces fûts sont toujours entreposés dans les greniers des maisons, là où il y a des grands écarts de température entre l'hiver et l'été, justement pour permettre tout ce travail du bois.
D'accord.
Alors, donc pendant toutes ces années, le maître vinaigrier bichonne son vinaigre. On est presque dans le vin, là, parce que c'est un produit tellement rare. Et puis au bout de ces années, il le fait déguster à un jury pour savoir s'il est prêt à être vendu. Et s'il n'est pas prêt, ben on lui dit, ben non, vous repartez comme ça dans l'élevage pendant plusieurs années. Et alors moi, j'ai dit, mais c'est fou, parce qu'on a déjà passé 25 ans, on recommence. Et on m'a dit, oui, mais à Modène, le temps n'est pas chronologique, mais organoleptique.
Le temps n'est pas chronologique, mais organoleptique.
C'est beau, ça.
Vous avez 3 heures.
Bon. Oui, c'est ça.
Mais Emmanuel, est-ce qu'il y a une dégustation qui est prévue de ce petit bijou ?
Non, parce qu'on ne peut pas boire à la fois du vin et du vinaigre. Donc
c'est vrai.
Voilà, je vous
c'est
en
vrai,
ai parlé.
C'est
et
vrai,
puis,
c'est vrai.
Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir évoqué ces bons produits italiens. Dans un tout petit instant, on va retrouver Jean-Bernard Carrier et ses bons conseils pour visiter l'Italie. Juste à présent, un petit Lilicube et voyage en Italie, évidemment, sur Europe 1.